présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Dégage et court, mais il fait que quelques pas que Maurice plonge sur lui et le rattrape, le prend par les pieds, ce qu'il fait tomber sur Lucien qui tombe sur le poids. Lâchez-moi, au secours! D'un coup de rein, Lucien se dégage de Maurice qui était sur lui et Maurice tombe à la renverse. Lucien se lève et court. Au secours, au secours! Maurice lui court après et d'un geste le retrouve et le retourne et le plaque sur le dos de la porte de sortie du train. Maurice prend de sa poche un couteau à cran d'arrêt. Il fait le geste d'un geste brusque, ouvre la porte du train. Le vent s'engouffre dans le couloir. Maurice pousse hors du train Lucien, qui est retenu, qui se retient des deux mains à la rampe. Maurice lui donne des coups de pied dans le ventre pour le faire tomber à la renverse. Lucien est soufflé, le vent qui tape au visage, les oreilles qui bourdonnent, la peur, la vitesse, les coups dans le ventre, ses bras qui lui font mal, il est prêt à céder. D'un geste de désespoir, il plonge du... d'une façon surhumaine la tête la première sur son agresseur, qui reçoit le choc dans le ventre et le fait tomber à terre. Le couteau s'envole dehors. Vite, Lucien se redresse et entre dans le wagon. Maurice se relève et plonge sur lui. Ils roulent tous les deux à terre, enragés tous les deux. Chacun se dit que c'est celui qui tuera l'autre. Ils roulent vers la porte ouverte. Lucien est dessus, Maurice est dessous. Lucien est dessous, Maurice est dessus. Ils se battent et Lucien se retrouve dessous. Maurice, le corps à l'extérieur du train, seules les jambes sont à l'intérieur. Maurice a le dessus. Lucien voit son visage sur lui en sueur. Lucien sent ses forces faiblir. Lucien se retient pour ne pas tomber avec ses bras de Maurice qui fait tout pour se défaire. D'un geste brusque, Maurice avec ses deux mains fait lâcher prise à Lucien pour qu'il tombe. Lucien, mort de peur, se sent partir. Il ne peut rien faire. Maurice s'empêche de se redresser et essaye de le tirer ses jambes à l'extérieur. Lucien arrive à replier ses jambes pour qu'il ne puisse pas glisser hors de la porte. Mais Maurice veut essayer de le faire lâcher prise. Lucien lui semble avoir la tête près des rails. Il est essoufflé par le vent, la vitesse, le bruit, les efforts. Il réussit à redresser un peu la tête. Et là, il voit Maurice qui fait la grimace. Se reculer. Oh ! Se tordre et s'effondrer à terre. Lucien, avec ses bras, il réussit à prendre la rampe et à se hisser jusqu'à l'intérieur du wagon. Il est essoufflé, en sueur, froid, chaud. Respire un bon coup et ferme la porte. Il s'approche de Maurice Avachi. Il voit de ses oreilles de la fumée. Il se penche, touche sa tête. Elle tombe à terre et voit qu'à la cassure du corps, des tas de fils de couleur. Lucien se dit, merde, un robot, j'ai été attaqué par un robot. Il faut que j'en parle à Galien et lui montrer la chose. Il prend le corps et la tête pour y mettre dans son compartiment. Puis, il appuie sur la sirène d'alarme. Un quart d'heure plus tard, un contrôleur est entré dans son compartiment et lui demande
« C'est vous qui avez tiré la sirène d'alarme ?»«
Oui, monsieur.
Pourquoi ?»«
Parce que j'ai été attaqué par un homme que voici. J'aimerais c'est que je puisse appeler de toute urgence monsieur Galien Diap, le président du groupe Jeune Tout, pour qu'il vienne nous chercher. C'est très important, » le contrôleur lui dit.
C'est la police que je dois appeler pour ce genre d'affaires.
Lucien lui dit, la police n'a rien à voir là-dedans. Voyez, la personne qui m'a adressé est un robot.
On n'arrête pas une machine.
Le contrôleur lui dit,
Avant, on jugeait bien les bêtes. Alors pourquoi pas les machines? Un ordinateur qui fait une connerie, allez, hop, en prison. Moi, Sécurité sociale ne m'a pas payé parce que je n'étais plus sur l'ordinateur. Il m'a bouffé. Je devrais, à ce con, porter plainte et il devrait être jugé pour m'avoir fait perdre de l'argent.
Lucien lui dit, pour le moment, ça ne se fait pas. Et puis, je ne veux pas porter plainte. Je veux savoir ce que c'est. Et seul mon ami Galien Diap peut le savoir.
Pourquoi avez-vous tiré ces alarmes puisque vous ne voulez pas d'aide?
Parce qu'il faut que je téléphone de suite. Et pour cela, il faut que je quitte mon compartiment. Et l'on risque de me voler mon agresseur. Et puis, pour me faire aider à téléphoner, c'est tout.
Ceci n'est pas très réglementaire. Si tout le monde veut téléphoner ou aller faire pipi, fait arrêter le train parce qu'un contrôleur vienne garder ses petites affaires, on n'en sortirait plus. Vous êtes en infraction. Je dois vous donner un procès-verbal.
Faites ce que vous voulez du moment que je peux téléphoner. Le contrôleur sort son calepin et écrit et lui dit
« Cela fait 5000 francs d'amende. »
Lucien lui dit « C'est cher la communication téléphonique. » Il sort de sa poche un chéquier, lui fait le chèque et le lui donne. « Et maintenant, puis-je aller téléphoner ?»«
C'est pas très réglementaire, mais enfin, venez avec moi. »
Lucien lui dit « Et lui ?» Contrôleur lui dit
« Je fermerai la porte à clé, j'ai un passe. »
Il sort du compartiment et le contrôleur ferme à clé. Lucien téléphone à Galien qui va venir les chercher à la prochaine gare. Et le train est reparti. Des hommes à Galien viennent chercher Lucien et le robot.
Alphonse, je crois que c'est là, tout à gauche. Allez, fonce, Alphonse. Sois gentil avec les petites filles, hein. Allez, embrasse papa.
Accroche-toi, papa.
Vous avez le numéro 5 en
ligne. Merci. Et le train part dans combien de temps? Il y a un wagon restaurant?
Le wagon restaurant est en tête. Salut!
On les a mis dans une camionnette pour les amener au laboratoire d'Orica.
Thank you.
faux laboratoire. Le robot est moné pour qu'on l'examine. Lucien est mené au bureau d'Orica, où Galien y est déjà. Et Lucien leur dit ce qui s'est passé. Galien demande à Riquin, qu'en pensez-vous ?
C'était un robot télécommandé qui a été programmé pour lui nuire. Je vais aller voir ce robot et je reviens.
Et il sort du bureau. Galien dit à Lucien, je m'excuse pour ce matin. Lucien lui dit, ce n'est rien. Il sent une douleur au bras. Galien lui dit, ça ne va pas ?
J'ai mal au bras. On m'a fait une piqûre et j'ai toujours mal.
On me piquait pendant que j'étais séquestré. Galien lui dit, il va falloir la faire examiner. On ne sait jamais.
Riquin revient.
Une fois assis, il leur dit,
c'est un robot sur un corps humain, robot programmé pour certaines missions. Très bien fait. C'est un robot fait en Amérique.
Galien dit, je commence à comprendre. Les Américains ont voulu éliminer et nous diviser pour éviter que nos deux groupes se réunissent et deviennent encore plus puissants.
Monsieur Riquin, mon ami, on lui a fait une piqûre au bras. Et il s'agirait de savoir quel produit on lui a mis.
Riquin fait des analyses en prenant des échantillons de sang et de peau sur Lucien. Eddie.
D'après les analyses, le produit est un produit affaiblissant et inoptique. Mais en plus, il envoie des signaux à un central qui indique où se trouve la personne. Comme cela, il savait exactement où était M. Pontois.
Lucien lui dit, il faut m'enlever cette saleté.
C'est ce que nous allons faire. De toute façon, la grande partie des informations était sur le robot. Le robot est mort, il ne peut plus rien contre vous. Mais il va falloir faire des lavements ou faire des rayons au bras. Ce n'est pas dangereux pour vous et ça tuera la puce qui est en vous, ou plutôt le produit qui fait effet de puce. Vous allez rester quelques jours hospitalisé chez nous, ici, pour ces traitements.
Lucien lui dit, « Bien, mais il faut prévenir Pascal. »
Galien lui dit, « Je lui téléphonerai. » Reste à la clinique. On lui fait ses lavements. On lui donne beaucoup à boire, des saignées et rayons. On en profite pour lui faire une visite complète. Après une semaine où il a été très bien traité, où Galien est venu le voir presque tous les jours. Les lavements et rayons sont finis. Il reste encore une semaine pour se remonter, prendre du poids, repos, bonne nourriture promenade dans le parc. Galia va le voir presque tous les jours. En marchant dans le parc, avec lui, Lucien lui dit « Il m'a parlé de mon père qui aurait fait tuer Pierre et qu'il était l'un des tueurs. Est-ce possible ?» Galien lui dit « Il a dit n'importe quoi pour te faire peur. Tu sais, les gens qui ont commandité cette opération contre nous ont fait une enquête très serrée sur nos devis, publics et privés, et nos relations sur plusieurs années. Comme cela, ils ont pu bâtir cette histoire. Des robots comme cela, à la mort de Pierre, il n'y en existait pas. Techniquement, c'était impossible de les faire. Or, tout ce qu'il a dit sur Pierre et ton père est faux. Lucien repart pour Lyon. Galien l'accompagne à la gare. Au revoir Lucien. Je viendrai te voir à Lyon. Merci pour tout. Il s'embrasse et Lucien monte dans le wagon.
Salut Alphonse.
Salut papa.
Cette fois-ci, le trajet se passe sans encombre. Il va avoir beaucoup de choses à raconter à Pascal. Les jours passent. Ricain pense et se dit « Plus on éloigne la maturité sexuelle, les traits qui jusque-là caractérisaient l'embryon deviennent alors ceux de l'adulte, tandis que disparaissent les caractéristiques qui auparavant appartenait à l'adulte. Le retardement sexuel permet le développement du cerveau. Maintenant, on a tendance à vouloir imposer aux jeunes une sexualité précoce en mélangeant les deux sexes et en mélangeant les types et êtres de différents climats. Les climats chauds donnent une sexualité précoce. Cette sexualité risque de rentrer dans nos gènes, notre mémoire et créer des êtres mous, moins adultes. C'est peut-être ce qui est fait en partie, et c'est peut-être pour cela que des jeunes restent adolescents jusqu'à 30 ans. Ceci risque de transformer l'homme en être plus primaire et faire des civilisations plus sauvages. La preuve, musique tam-tam, retour aux barbares dans les croyances, médecine parallèle, voyance, magie, sorcellerie, etc. On a tué l'adulte en avançant les rapports sexuels, la puberté. L'évolution est décrite aux personnes de phylogrénée, c'est-à-dire de différence entre organismes adultes. Mais les différences entre adultes ne reflète jamais que la différence entre le processus de développement entre adultes. Et plus l'évolution est grande pour l'adulte, plus les contraintes de la vie sont dépassées. Dans Ford et Agalia dans son bureau. Le but, c'est de créer des êtres vivants comme on le veut. Et on y arrivera grâce à l'ADN. Nous avons déjà commencé avec les chimères. Agalia lui dit, mais cela ne risque-t-il pas de créer des espèces d'esclaves ? Dans Ford lui dit, ça existe déjà. Les animaux sont des espèces vivantes que l'on fait faire de la nourriture autre, ce sont nos esclaves. L'homme ne peut pas vivre comme ça. Il a besoin soit de machines, soit d'êtres vivants pour l'aider. Il ne peut pas vivre de soleil, d'air et d'eau. Il lui faut autre chose. Et comme son corps est fragile, il a besoin de le protéger. Il a un cerveau si développé, c'est qu'il a besoin d'intelligence pour remplacer ce qui lui manque de force physique. Et comme l'on dit dans les religions, tout ce qui est sur la terre est à lui. Et malheureusement, il a besoin de tout ça. La faiblesse, pour se protéger, a besoin de choses. Galien lui dit, c'est pas juste pour les autres espèces.
Oui.
Mais maintenant, l'homme a besoin d'autre chose, d'espèces d'hommes, de bêtes bien typées, pour une aide bien précise. Et même, il mélange d'espèces vivantes à la machine, des esclaves mi-machine mi-homme, comme nos ordinateurs, nos robots, faits de cadavres d'hommes et de machines. Gaïa demande, jusqu'où cela peut aller ? L'enfant lui dit, on ne peut pas aller plus loin, puisqu'on est même capable de transformer une espèce et d'en créer d'autres. De faire travailler des bactéries pour qu'elles nous fournissent de la matière première. Que faire de plus ? Je ne vois pas. Gaïa lui dit, vous oubliez la création d'un nouveau continent.
Oui.
Et il y a juste la mort, que l'on n'a pas encore maîtrisée. Mais on commence à la retarder. jours passent. Une nouvelle lubie arrive. Des personnes adultes d'un certain âge s'imaginent qu'en se faisant remplacer leur organe sexuel par un d'une autre personne jeune, ils ralentiraient le vieillissement. Au début, l'on disait que de faire l'amour avec une personne plus jeune que soi, et même beaucoup plus jeune que soi, le jeune partenaire ou la jeune partenaire donnerait de la jeunesse à l'autre, au vieux ou à la vieille personne. Ensuite, des personnes se sont dit « Pourquoi ne pas prendre carrément le sexe d'une jeune personne et de se le mettre ? Comme ça, je l'aurai toujours avec moi et cela me permettrait de rester plus longtemps jeune. » Une idée idiote. Même Riquin n'y croit pas. Mais comme ce sont des gens très riches qui font ces demandes farfelues, Danfort dit à Riquin
« Il faut ouvrir un service pour ce genre de traitement. Ils ont les moyens, ils payeront très cher. »
Riquin lui demande « Et où trouvons-nous les organes ?» Danfort lui dit
« Nous irons les prendre dans les hôpitaux, chez les personnes déjà décédées. Et si ça ne suffit pas, nous ferons comme d'habitude. »
Et l'on ouvre le service. L'on fait un stock d'organes sexuels de jeunes adolescents des deux sexes que l'on va congeler. Ils sont pris dans les hôpitaux et les morgues. Par le bouche à oreille, l'on attire le client. Ce sont déjà des gens d'un certain âge qui sont très riches, ont dépassé la soixantaine, aiment la jeunesse. Ils ont des maîtresses beaucoup plus jeunes qu'elles et n'arrivent pas à les satisfaire. Ils ont un côté lamentable et croient au miracle. Avec l'ADN, il n'y a pas de rejet. Mais c'est pas parce qu'on a un organe jeune qu'il va marcher comme si on avait 20 ans. Car l'organe est peut-être jeune, mais ce n'est pas tout. Le cerveau qui commande tout ça, lui aussi, doit pouvoir arriver. Et malheureusement, il n'a pas 20 ans, lui. Alors après plusieurs semaines d'essai,
attends, ça va venir,
etc. Ils reviennent furieux voir Riquin.
Vous m'avez roulé, mon vieux, ça ne marche pas du tout.
Riquin lui dit, votre organe a 20 ans, mais vous en avez 50 de plus, et votre cerveau aussi. C'est le cerveau qui met en marche tout ça.
Alors que faire?
Nous allons vous faire prendre des cours de sexuologie. Vous pouvez même les prendre ici même. Alors il y a gymnastique, massage, masturbation, érotisme par défilé de jeunes personnes, pornographie, piqûre d'excitants, essais de bandage, etc. Et même des demoiselles pour vous aider. Et ils acceptent tous ces cours de sexologie appliquée qui sont très chers. Ça sert au moins à réexciter le cerveau et à refaire les muscles de l'entre-deux-jambes. Si ça ne marche pas, Riquin leur dit : nous ne pouvons pas vous changer le cerveau. Un jour, un homme vient le voir. C'est un homme grand, mince, cheveux blancs, distingués, à peu près 70 ans, costume gris.
Entrez. L'homme entre. Venez vous asseoir, monsieur.
Je vous écoute, monsieur. L'homme lui dit : eh bien voilà, monsieur, j'ai un problème. Nous avons tous un problème.
Oui, mais celui-là est très particulier. Je peux vous parler à corps ouvert ?
Riquin lui dit : oui, monsieur, j'ai l'habitude.
Eh bien voilà, j'aime un jeune homme qui ne m'aime pas. Il n'aime pas les vieilles personnes et ne veut pas avoir de rapport avec moi. Moi, je l'aime de tout mon corps. Alors, je me suis dit, si vous me mettiez ses organes sexuels, je pourrais faire l'amour avec lui sans que cela le gêne.
Riquin lui demande : faire l'amour, comment, monsieur ?
En me masturbant, tout simplement, et cela ne le gênera pas du tout.
Riquin, avec toutes ses histoires de sexe, à dormir debout, n'arrive plus à suivre. Il lui dit : je ne comprends pas très bien. En tant que médecin, si vous vous masturbez, vous faites l'amour, mais vous ne la faites pas à un autre. Peut-être que deux personnes qui se regardent se masturber peuvent avoir l'illusion de rapport. Mais c'est faux, le monsieur lui dit.
Le monsieur lui dit : mais je saurais, c'est que l'organe de mon jeune ami, je le sentirais, celui qui lui donne du plaisir et celui qui en reçoit. Et celui qui en reçoit sera mon ami, puisque l'organe est à lui.
Riquin lui dit : bien, bien, soit, passons. Vous viendrez avec votre ami et nous ferons l'opération. Et qu'est-ce que je mets à la place ? À votre ami.
Je n'y ai pas pensé. Le mieux sera, comme il est dégoûté des vieux, il ne voudra pas. Mettez-lui n'importe quel sexe.
Bien, bien. Vous viendrez avec votre ami et nous ferons l'opération. Une semaine d'hôpital à deux, ça fait 100 000 francs chacun. Le monsieur, dont nous ne dirons pas le nom car il est très connu, lui dit :
il y a un hic. C'est que je ne lui ai pas parlé de ça, et je suis sûr qu'il ne voudra pas. Ne pouvez-vous pas lui dire que vous allez l'opérer de l'appendicite ?
Riquin lui dit,
je ne peux pas faire ça, c'est interdit. Je risquerais d'avoir un procès.
L'homme lui dit :
procès ou pas, la chose sera faite.
Non, je ne peux pas. Mettez-vous d'accord avant.
L'homme soupire et s'en va.
et il n'est pas revenu. Voilà les problèmes que Riquin a à résoudre tous les jours. Heureusement que ce genre de choses coûte très cher, parce qu'il y aurait de très grosses demandes et ce serait difficile d'avoir des organes de remplacement. Le temps passe. Riquin se dit que toutes ces choses que l'on fait pour prolonger la vie, c'est peut-être bien pour la personne, mais ce n'est pas bien pour l'espèce. Avant ne survivaient que des hommes suffisamment forts pour résister à toutes les attaques que l'on a au cours de la vie. Microbes, climat, maladies, etc., etc. Et cela donnait des individus forts, résistants. La race humaine ne pouvait garder que les meilleurs. En résumé, la sélection naturelle se faisait d'elle-même. Et cela donnait une bonne race. Dès la naissance, les nouveau-nés très faibles mouraient. Et au fil des âges, tous ceux qui étaient très faibles mouraient. Ils ne résistaient pas. Pour arriver à l'âge adulte, il ne restait que les bons, les forts. Maintenant, on fait tout pour que les faibles, ceux qui ne vivaient pas avant, vivent. La grande vigueur chez l'homme est entre 20 et 30 ans. C'est la période où il y a le moins de mortalité, où les gens sont les moins malades. C'est vers 15 ans que la sélection naturelle se fait, car c'est une période de grande sexualité et c'est pour avoir une descendance de la race forte. Bien entendu, ces idées sont des idées vues par Riquin. Les jours passent. La perception du monde extérieur est mouvante, filtrée. Notre équipement sensoriel nous permet de voir, par exemple, un tigre entrer dans notre chambre, mais ne nous permet pas de voir le nuage de particules dont est fait le tigre et que le physicien nous affirme qu'il est constitué. La réalité du tigre. Le monde extérieur dans la réalité nous est connu d'une manière instructive pourrait être une création du système nerveux. Mais à quoi cela servirait-il de voir le monde en molécules qui bougent tout le temps? Cela nous apprendrait quoi en plus? Il vaut mieux voir le monde comme on le voit, même si c'est faux, du moment qu'il nous permet de voir, de nous informer. À quoi cela servirait-il de voir la vie comme les serpents ou les martiens, puisqu'on ne vit pas comme eux? On ne devrait pas vivre comme eux. Ou ne devrait pas vivre comme eux. La Terre bouge tout le temps. Les choses vivantes sont des molécules qui sont constamment en mouvement. Si l'on ne voit pas bouger le monde où nous vivons, c'est peut-être pour que le cerveau puisse avoir le temps de reconnaître ce qu'il voit. C'est plus facile de reconnaître une chose qui est fixe que si elle est constamment en mouvement ou si elle est en forme de particules. Peut-être que l'œil, au lieu de voir comme une caméra, voit comme un appareil photo. Il prend en flash d'une façon très rapide des images fixes pour que le cerveau puisse voir des choses fixes. Comme cela, il a le temps de les reconnaître. Ces photos que prendrait le cerveau se feraient à des distances très courtes, ce qui donnerait un semblant de mouvement suffisamment pour nous. Et si cela est vrai, peut-être que nous vivons un monde qui est d'une rapidité impossible à voir et que nous évoluons au ralenti, même lorsque l'on croit aller très vite. Notre vie est régularisée par nos sens et nos sens par la limite de l'entendement de notre cerveau. Si nos sens montraient un monde où notre cerveau ne pourrait pas se guider, on ne pourrait pas vivre. Nos sens sélectionnent et codent les informations pour que le cerveau puisse agir, le prendre. Le monde que nous voyons est limité par les limites du cerveau, etc.
Les jours passent. Au château, Guillaume, la nuit, a des cauchemars. Il rêve qu'il est tout petit. À l'école, les autres élèves sont grands et forts. Il lui rit après, lui crie après, lui court après. Il court dans tous les sens. Il se met à crier, il se met à prier notre Père très vite. Et il se réveille en priant le Notre Père. Au bout d'un moment, il se demande pourquoi il prie, ce qui lui prend, et il se rendort. Malheureusement, dans la matinée, il sent qu'il doit dire le Notre Père. Puis à midi, puis le soir, il prie automatiquement, la tête vide. Ceci le trouble. Il se rend compte que ça l'empêche de penser à des choses. À des mois, que cela dure. Cela l'énerve. En se promenant dans le parc avec Galien, il lui en parle.
Il m'arrive une chose étrange. Tout d'abord, je fais des cauchemars. Je rêve que je suis tout petit, que je suis poursuivi par des élèves plus grands que moi. J'ai peur, je cours tout le temps. En courant, je mets à prier. Je me réveille en sueur et je me rends compte que je prie. Galien lui dit, c'est normal. Tu es encore sous le choc de ton rêve, rien d'extraordinaire. Guillaume lui dit, oui, tu as raison jusque-là. Rien d'extraordinaire. Mais dans la matinée, à midi, le soir, il faut que je prie. Parce que si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. C'est comme si j'étais en faute. C'est comme si j'étais en manque. C'est très pénible. Car je dois le faire à heure fixe. J'ai l'impression d'être prisonnier d'un système. Galien lui dit, c'est peut-être un appel de Dieu. Tu es élu. Un besoin de religion pour te sentir en sécurité. Guillaume lui dit, non, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Et si je le fais, c'est pas par amour, mais par obligation. Ça devient presque une corvée.
Galien lui dit, c'est peut-être un reste d'enfance.
Étant enfant, je ne faisais pas ça.
Eh bien, c'est un truc nerveux. Tu devrais essayer, c'est d'arrêter progressivement. Tu prends une prière par jour. Puis une fois que tu es habitué, tu en supprimes une autre, etc. Et tu verras bien si ça va mieux. Et je crois que c'est pas grave. J'en parlerai au médecin.
Arrivé à Paris, il va en parler à Riquin.
Qui lui dit, c'est un retour à son enfance. C'est pas grave. Il fait comme les enfants qui ne veulent pas marcher sur le bord des carreaux. Comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi. Mais il faut qu'ils le fassent, autrement ils auraient l'impression qu'il leur arrive quelque chose. Ça lui passera.
Les jours passent. sur la route de Grenoble. Entre Grenoble et Lyon, à 60 km de Lyon, se trouve, en retrait de la route nationale, un petit village d'agriculteurs, le Mottier. Il doit avoir à peu près 500 ou moins d'habitants. Le village est en longueur, avec son église, son café-poste, son épicerie 1930 et ses coups. Et au pied de coteaux boisés. Et derrière ce coteau, il y a un village abandonné. Sur un coteau, il y a aussi une tour. L'on dit le château de Boxozel. Mais était-ce un château? Il en reste tellement peu de choses. Même la tour est carrément démolie. Pour les besoins de l'histoire, je vais ajouter derrière les coteaux, en plus du village abandonné, un marais. Un marais, je sais, dans ce pays, c'est un peu étrange, car c'est un endroit qu'on appelle la terre sèche, car l'eau y est rare. Les sources, très rares, viennent des coteaux boisés. Et je me souviens, dans les années 50, des fois, les sources étaient taries. Ce qui fait que dans ce coin, l'eau y est très précieuse. Les gens, à cette époque-là, n'avaient pas tous l'eau à l'évier dans la maison, mais dans la cour. Un mince filet d'eau qui coulait en continu dans un bac en ciment. Les gens sont des paysans, mais de petits paysans qui font un peu de tout, surtout le blé et la pomme de terre. Ils ont un jardin pour les légumes, des lapins, poules, pigeons, quelques vaches, trois ou quatre, des chèvres, un cochon. Et c'est tout. Il y a de nombreux chiens et chats qui sont à moitié sauvages, qui la nuit errent dans le village, se battent, aboient, etc. La nuit, il fallait faire attention pour ne pas se faire mordre. Les chats étaient terribles et l'on ne pouvait pas les attraper. Je me souviens, lorsque j'étais petit, il y avait très peu de voitures. Et les gens s'en prêtaient. On servait beaucoup de chevaux et d'ânes. Être dans une carriole tirée par un âne ou un cheval, c'était une de mes grandes joies d'enfant. Je me souviens même avoir acheté, avec mon frère, un âne à un paysan, sans le dire à mes parents. Nous sommes arrivés avec la bête toute fière. Mais ça a été une véritable panique, car mes parents en avaient peur. La bête voulait entrer dans la cuisine. Nous avons été obligés, c'est de le ramener à son ancien propriétaire avec beaucoup de tristesse, car je venais de lire, et c'était mon premier livre que je lisais, Les Mémoires d'un âne. Donc, un petit village au pied d'un coteau boisé, avec des noisettes, d'une tour de château, et de tout pour qui fait la campagne.